Je suis géographe, j'ai travaillé sur la question du paysage dans les politiques d'aménagement à travers une thèse. Alors, les conflits n'étaient pas l'objet de cette thèse. Moi, je m'intéressais à la façon dont la notion de paysage était prise en compte aujourd'hui dans les politiques d'aménagement. Il se trouve qu'à travers cette thèse, j'ai fréquemment rencontré des conflits sur les territoires à propos de gestion de paysage. Ces conflits apparaissent comme une dimension importante dans ce travail doctoral soutenu en 2003, lié à cette matière-là, donc j'ai publié dans un ouvrage que je vous conseille, qui est un ouvrage collectif, qui s'appelle « Territoire de conflit », qui a été publié il y a quelques années aux éditions L'Harmattan. Et donc j'avais écrit un petit texte à partir de ces conflits rencontrés au cours de ma thèse dans cet ouvrage. Donc aujourd'hui, je vais, dans un premier temps, vous illustrer un certain nombre de conflits de paysage, ces conflits étant tirés de ma thèse toujours. Je précise que ces conflits n'ont rien de très original dans ce que je vais vous montrer. Je suis sûr que vous en avez tous en tête aussi, peut-être plus originaux que les miens. Mais c'est simplement pour essayer de, voilà, de faire un panorama très, très subjectif d'un certain nombre de conflits de paysage que j'ai rencontrés en région Pays de la Loire. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de dépasser ces conflits pour m'intéresser à leur résolution. Vous verrez que j'essaierai d'aborder ça à travers ce que je vais qualifier de médiation par le paysage ou de participation par le paysage, sachant qu'aujourd'hui, cette orientation-là est une orientation forte de mon activité de recherche, dans la mesure où je coordonne un Master 2 qui est cohabilité entre mon établissement AgroCampus Ouest Angers et l'Université d'Angers, Master 2, qui s'intitule « Paysage et médiation », dans lequel on essaie d'aborder justement le paysage moins comme une finalité d'aménagement, comme, ça c'est l'orientation qu'on donne à la formation des paysagistes, par exemple. Moi, je forme des ingénieurs paysagistes à AgroCampus. Dans cette formation « Paysage et médiation », on cherche au contraire à utiliser le paysage comme un outil, un moyen, et non pas une fin. Donc un outil pour faire participer les populations dans des projets urbains, dans des projets agricoles, dans des projets de territoire au sens large. Donc c'est cette dimension-là, participative par le biais du paysage, par le paysage outil, que je vais aborder dans un deuxième temps. Donc cette formation-là que je coordonne est axée là-dessus. Par ailleurs, on s'engage avec un certain nombre de collègues géographes, mais aussi paysagistes, dans un programme de recherche qui est consacré à ce thème, paysage et participation. C'est un programme qui vient d'être lancé par le ministère de l'Écologie. Et donc, j'ai publié aussi deux articles sur cette thématique-là. Pour commencer cette intervention, je suis obligé de fixer un peu le contexte un peu théorique. Alors, la notion de paysage, alors je vais dire des choses que vous connaissez déjà, peut-être pour les historiens un petit peu moins. La notion de paysage en tant que projet politique, d'une certaine manière, est présente dans le droit français depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis un siècle, en France, on a des outils juridiques pour protéger les paysages. Donc ça, depuis les monuments historiques, 1913, depuis la protection sur les sites naturels, 1930. Voilà. Au tout début du siècle dernier, on avait déjà des outils réglementaires pour prendre en compte, en tout cas, ou protéger les paysages dans les politiques d'aménagement. Mais il se trouve finalement que la notion de paysage, même si elle est présente dans le droit français depuis un siècle, n'a jamais été définie. Vous ne trouverez jamais une définition du mot paysage dans le droit de l'environnement, dans le droit de l'urbanisme, jamais. La seule définition qui existe, finalement, elle est toute récente et elle a été proposée dans un document qui s'appelle la Convention européenne du paysage que la France, le Parlement français a ratifié en 2006. Cette Convention européenne du paysage a pour objectif, pour les pays qui signent bien sûr la Convention, d'inciter donc ces pays à mener des politiques de paysage, des actions en faveur de la qualité des paysages. Et tout à l'heure, je définirai ce que sont les politiques de paysage du point de vue de la Convention européenne. Et donc, dans cette Convention européenne, le premier article, c'est une définition, enfin, je dirais, de cette notion de paysage. Alors, je vous la présente. Donc, partie de territoire telle que perçue par la population et dont le caractère résulte de la combinaison de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Alors, là-dedans, on trouve des choses que la géographie, la discipline géographique avait déjà très largement abordé, c'est-à-dire le paysage en tant qu'interface entre des faits de nature et des faits de culture. C'est la deuxième partie de la définition. Donc ça, c'était l'approche géographique, je dirais, du début du siècle dernier, celle sur laquelle la géographie même s'est construite, la géographie des paysages, celle de Vidal de Lablache, par exemple, qui était un historien de formation, d'ailleurs. Et puis, progressivement, la géographie à aborder l'autre versant, je dirais le versant beaucoup plus contemporain de la théorie du paysage, qui est celui de l'immatérialité, celui des perceptions, celui des représentations. Et donc, dans cette définition de la Convention, on trouve cette approche-là, on commence même par cette approche-là, le paysage est d'abord une partie de territoire telle que perçue. Donc c'est quelque chose de subjectif, c'est un regard qui se porte sur l'espace, et ce regard-là est propre à chacun, propre à certaines cultures, etc., etc. Donc vous avez bien dans cette définition, en condensé finalement presque l'histoire de la discipline géographique sur la notion de paysage. Donc c'est une définition, moi, qui me convient assez bien. Par contre, cette définition-là, il faut bien être conscient que ce n'est pas une définition scientifique, c'est une définition politique qui cherche à orienter l'action publique paysagère sur les territoires. Et quelle est la fonction, finalement, de la Convention européenne du paysage? C'est de dépasser une approche strictement patrimoniale du paysage. Tout à l'heure, je vous faisais référence à la loi sur les monuments historiques, sur les sites naturels. C'était une approche extrêmement patrimoniale du paysage et très élitiste. C'est-à-dire que ce qu'on protégeait au nom des monuments historiques ou au nom des sites naturels, c'était des petits objets, des petits sites, des petits monuments naturels qu'on protégeait parce qu'ils avaient une valeur exceptionnelle. Et donc la Convention européenne du paysage dit qu'il faut sortir de ça, de cette approche très élitiste, très exceptionnelle du paysage, pour s'intéresser au paysage ordinaire, au paysage quotidien, au cadre de vie. Et cette notion de cadre de vie, aujourd'hui, est synonyme de paysage dans la Convention européenne du paysage. Donc vous voyez un changement d'approche, c'est ça que porte la Convention. Donc une définition politique. Lorsque je cherche une définition scientifique, j'ouvre des dictionnaires de géographie. Un des dictionnaires que j'utilise beaucoup, c'est le dictionnaire de Lévi-Lussault, coordonné par Lévi-Lussault, le dictionnaire de géographie et de l'espace des sociétés. Lorsque j'ouvre à paysage, on tombe sur cette définition-là. Vous allez trouver des choses très analogues. Agencement matériel d'espace naturel et social, donc on est toujours dans cette combinaison. En tant qu'il est appréhendé visuellement, toujours cette perception du paysage, visuellement de manière horizontale ou oblique par un observateur. Représentation située, le paysage articule plusieurs plans permettant l'identification des objets contenus. Donc on est bien dans une vision les pieds au sol du paysage avec plusieurs plans, un premier plan, un deuxième plan, un arrière-plan. Et c'est ça qui est intéressant dans cette définition-là, qu'on ne trouve pas dans la première, c'est qu'on prend une dimension esthétique. La géographie culturelle, depuis une vingtaine d'années, nous aborde en fait la notion de paysage d'une manière très culturaliste en disant finalement cette notion de paysage elle est apparue dans la société européenne à la Renaissance comme un élément de vocabulaire du langage pictural. Donc ça représentait d'abord une fenêtre qui s'est ouverte sur l'espace. Et donc, dans la peinture, et cette notion de paysage, elle est connotée esthétiquement. Et si je vous dis d'imaginer des paysages, vous allez vous représenter dans vos têtes, non pas la banlieue, une centrale nucléaire ou une décharge, mais plutôt un paysage agréable. Et cette notion de paysage reste encore aujourd'hui très marquée par cette origine esthétique, telle que, en tout cas, la géographie culturelle en retrace l'histoire. Donc, ça sous-entend cette définition, finalement, tout n'est pas paysage, que certains espaces, certains territoires ont une valeur paysagère. Et donc, par rapport au colloque de Saint-Dié, là, qui est sur les valeurs du paysage, le paysage est en soi une valeur du territoire. Certains espaces, certains territoires n'ont pas cette valeur de paysage. D'autres acquièrent cette valeur. On les nomme, on les qualifie de paysage. Vous voyez bien que la Convention européenne, au contraire, cherche à dire tout est paysage, tout est digne d'être couvert par cette notion. Et c'est... les politiques d'aménagement doivent s'intéresser aussi bien à nos entrées de ville, à nos banlieues, à nos espaces quotidiens. Donc il y a bien une tension, vous voyez, entre une approche, je dirais, héritée de la notion de paysage et puis une approche un peu politique où on essaie d'orienter l'action publique aujourd'hui. Alors mon approche du paysage, vous comprenez bien, c'est une approche en tant que projet de paysage, politique de paysage. Je m'intéresse à cette notion-là à travers l'action qui est faite au nom des paysages, donc aux pratiques paysagistes en particulier, mais pas seulement, à toute l'action publique, lorsqu'elle est conduite au nom de l'aménagement du paysage, de la protection des paysages ou de la préservation des paysages. C'est ça mon approche. Alors justement, les politiques paysagères aujourd'hui sont définies par la Convention européenne comme étant... Politique paysagère, en tout cas, désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage. les politiques paysagères relèvent soit de la protection, et c'était historiquement ça, hein, c'était bien ça, les monuments historiques, les sites naturels, soit de la gestion, donc une approche beaucoup plus souple, beaucoup plus de régulation finalement des dynamiques, soit de l'aménagement, c'est-à-dire qu'on peut aussi couvrir par ce terme politique paysagère des politiques d'aménagement, des politiques créatrices de paysages finalement. Donc c'est aussi ça qu'apporte la convention paysage du paysage de Florence, dépasser la protection pour considérer aussi les mesures de gestion et d'aménagement.
Voilà, alors dans ma thèse, j'avais essayé à travers une figure qui recense finalement tous les outils réglementaires en lien avec l'enjeu du paysage dans le droit français. Cette figure avait pour ambition de montrer le changement d'échelle à l'œuvre aujourd'hui dans l'évolution du droit du paysage, si on peut parler de droit du paysage. Donc des premiers outils qui ciblaient des monuments historiques ou des sites, c'est-à-dire des espaces très réduits hein, en termes de superficie, dans une approche extrêmement conservatrice, extrêmement protectrice, donc uniquement dans la dimension protection dont on a parlé à l'instant. Et puis progressivement, les outils réglementaires qui abordent cette notion de paysage cherchent à l'aborder dans une échelle de plus en plus large, de plus en plus ouverte. Donc c'est ça que dessine cet éventail, un changement d'échelle progressive depuis l'échelle du monument, l'échelle du site, l'échelle du quartier et l'échelle du grand paysage. On ne détaille pas tous les outils réglementaires, mais ayez en tête cette ouverture finalement des échelles de protection ou des échelles d'aménagement. Deuxième niveau de lecture, c'est l'approche un peu thématique, vous voyez, en secteur. Les premiers outils relevaient de la conservation des monuments, que ce soit des monuments bâtis ou naturels. Le deuxième secteur de mon schéma qui correspond aux lois des années 60-70, qui correspondent à la grande période finalement de la protection de l'environnement en France, où on aborde le paysage sous la grande thématique de la protection de la nature, donc les grandes lois de protection de l'environnement. Donc on aborde le paysage autrement, vous voyez, que dans la première partie du XXe siècle. Et puis je dirais que les outils récents, donc jusqu'à la Convention européenne du paysage, les outils récents abordent le paysage en tant que cadre de vie dans une logique d'aménagement du territoire, et le paysage est devenu aujourd'hui un enjeu d'aménagement du territoire au sens large, un enjeu qui doit être géré, abordé à travers les documents d'urbanisme en particulier, que sont les plans locaux d'urbanisme aujourd'hui, qui étaient les POS il y a quelques années, ou les SCOD, donc les schémas de cohérence territoriale, qui étaient les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme il y a quelques années. Donc les documents d'urbanisme aujourd'hui, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités, voire les départements et les régions, c'est à travers ces outils-là d'urbanisme et de planification que les politiques paysagères doivent être conduites. Donc vous voyez, à la fois un changement d'échelle, un changement d'approche, et puis troisième niveau de lecture, un passage depuis une gestion très centralisée, c'est-à-dire que les monuments historiques, les lois, les sites naturels, voire les secteurs sauvegardés de la loi Malraux, etc., tout ça a été géré par les services de l'État, donc une compétence en matière de paysage très centralisée, et progressivement, via la décentralisation, l'action sur le paysage, les politiques paysagères sont des politiques partagées entre les services de l'État et les collectivités territoriales. Toujours dans ma thèse, j'ai essayé de montrer que malgré finalement ce changement d'échelle qui dessine, je dirais, une évolution des monuments et sites d'exception au paysage du quotidien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la Convention européenne du paysage. Malgré ce changement d'échelle, malgré le deuxième changement d'échelle dont je vous parlais à l'instant, qui consiste à dire que c'était l'État, ses services, qui, jusqu'aux années 60-70, avaient les compétences en matière de paysage. Et aujourd'hui, on a une décentralisation de l'action. Donc finalement, les politiques de paysage se construisent aujourd'hui, sont élaborées à l'entrecroisement de ces deux changements d'échelle-là. C'est la figure, le niveau haut de mon schéma. Ce double changement d'échelle, finalement, s'apparente comme à un redimensionnement. Enfin, ça illustre ça, un redimensionnement de l'action sur les paysages, mais qui est problématique au sens propre, c'est-à-dire qui pose problème aux acteurs. L'essentiel du contenu de ma thèse, c'était de montrer que ce changement d'échelle était difficile pour les acteurs. En particulier, ce redimensionnement était rendu difficile par un tas de conflits, et c'est ça l'objet de la communication d'aujourd'hui, des conflits d'appropriation et d'instrumentalisation du paysage qui parasitent finalement l'action publique sur les paysages aujourd'hui. Donc ça crée à la fois les limites méthodologiques et puis les limites opérationnelles, c'est-à-dire les conflits essentiellement, une espèce de filtre donc un changement d'échelle théorique de l'action, mais qui crée un filtre à travers lequel passent des actions, hein, à travers lequel passent des actions en matière de paysage, mais finalement des actions très ponctuelles. Et lorsque vous vous promenez comme moi dans les territoires et que vous cherchez les traces finalement de l'action publique sur le paysage, vous voyez des aménagements, mais souvent très symboliques, très réduits en matière, enfin en termes de surface, alors même que vous voyez là, théoriquement, on devrait avoir des politiques paysagères à une échelle très large, des actions d'ensemble, territoriales. Et au final, on a un paysagement, si on peut employer ce terme-là, territorial, très mesuré, même si par cette symbolique, ces aménagements font référence à un territoire plus large. Donc c'était un peu ça, très schématiquement, le trajet et le propos de ma thèse. Aujourd'hui, bien sûr, on va s'intéresser à ce filtre, les conflits. Quelques exemples. Nous sommes ici sur la... Alors, je vais présenter ça un peu sous la forme d'anecdote, hein, et puis on essaiera de faire le point après ça pour en dégager justement des valeurs, enfin une interprétation plus générale, une montée en généralité. Nous sommes ici sur la vallée de la Loire, sur une route digue qu'on appelle une levée, donc qui permet de protéger le Val d'Authion, donc c'est le Val large, donc du Lit majeur, du Lit mineur de la Loire à droite. Donc vous avez à droite un espace agricole qui est protégé des inondations par une route qui est une digue qui protège non seulement des surfaces agricoles mais surtout des habitants. Donc le Val d'Authion est très peuplé. Il est couvert par un plan de prévention des risques puisqu'il est inondable. S'il n'y avait pas cette levée, on serait dans le Lit majeur de la Loire. Donc cette levée est un ouvrage qui date du XIIe siècle, qui a été régulièrement rehaussé, consolidé, etc. Mais il y a quelques années, les services de l'État ont souhaité renforcer l'ouvrage pour protéger, justement dans le cadre du plan de prévention des risques, pour protéger les populations. Alors il y a eu un conflit à propos, non pas du projet de renforcement de la levée en lui-même, mais à propos des solutions préconisées par les services de l'État pour consolider l'ouvrage. En sortant un jour d'une réunion publique du Conservatoire régional des Rives de Loire, donc je suis tombé face à un groupe d'habitants structurés en associations qui nous ont distribué un photomontage qui montre la levée avant les travaux et la levée après les travaux. Avec une légende qui nous dit que cette étude graphique illustre l'impact du projet de renforcement de la levée de la Loire sur l'environnement paysager de la route touristique entre Angers et Varennes, l'attrait de la levée qui longe le fleuve serait affecté à jamais par ce projet technique lourdement traumatisant dans la traversée du Maine-et-Loire, etc. etc. Donc l'association de sauvegarde des paysages riverains de la Loire lutte pour préserver le caractère unique de ce paysage-là. Les riverains se sont structurés non pas contre le projet, mais contre les solutions d'aménagement. La Loire, la levée et le Val. Les préconisations de l'État consiste à amener des matériaux ici et des matériaux ici pour consolider l'ouvrage et puis insérer des pales-planches pour toujours consolider l'ouvrage. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on s'en tient d'un strict point de vue de la qualité du paysage, vous pourriez ne pas comprendre le message. C'est-à-dire que vous auriez le droit de dire « ce paysage-là, il est peut-être plus intéressant que celui-là ». Il permet, par exemple, de voir du patrimoine ligérien. Vous voyez, il y a des bâtiments magnifiques. Donc, déjà, c'est un choix risqué de dire le paysage d'après les travaux est moins intéressant que celui-là. Évidemment, ce qui est le message, c'est lié à l'enlèvement des boisements, essentiellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'argument du paysage ici. Qu'est-ce qu'il cache? Vous le devinez, c'est une réaction de riverains qui habitent en bord de levée, et qui voient leur terrain empiété par des aménagements. Donc c'est moins la qualité de la levée avec des arbres qu'il faudra enlever pour réaliser les travaux que finalement peut-être une diminution du coût des propriétés liées aux travaux hein, qui est le motif réel de cette mobilisation. Évidemment, les riverains ont tout intérêt hein, à ce que la levée soit bien consolidée, mais là, on fait appel au paysage, à cette notion, à ce patrimoine, pour défendre un bien privé. Donc c'est le passage par un bien public, donc c'est une montée en généralité, pour défendre un bien privé,
ou la valeur en tout cas d'un bien privé. On passe maintenant à un autre exemple qui relève plus d'une planification communale, initiée par un élu qui a la particularité d'être paysagiste au CUE de Maine-et-Loire. Nous sommes ici dans une petite commune périurbaine de l'agglomération d'Angers, avec un élu qui a décidé de faire de son POS un outil pour un projet de paysage. Dans ce POS, il y avait plusieurs choses qui étaient envisagées.
D'abord, l'idée était de protéger, vous avez ici le bourg, une topographie un peu en vallée comme ça, avec un ruisseau qui passe d'est en ouest, le bourg ici, une forêt ici, et puis un versant un peu bocagé de l'autre côté. L'idée était de protéger le bocage.
La deuxième idée était d'empêcher le développement des peuplerets dans ce vallon, largement inondable, et pour lequel donc, c'était une possibilité en tout cas de mise en valeur, les peuplerets, sachant que l'agriculture était plutôt en déprise dans ce vallon-là, à cause des contraintes inondables. Donc limiter le développement des peupliers, préserver le bocage, et puis troisième axe, créer un sentier de randonnée qui permettra peut-être à terme permettre l'accès à la population du bourg,
à cette forêt qui pour l'instant est privée, mais sur lequel
l'agglomération a jeté son dévolu à travers ce qu'on appelle une ZAD, donc une zone d'aménagement différé.
À Angers, dans l'agglomération d'Angers, il y a très peu de bois, même, enfin il n'y en a même pas de forêt ouverte au public. Donc il y a cette forêt-là qui est privée, donc l'agglomération a dessiné une ZAD qui lui donne un droit de préemption, c'est-à-dire que si un jour la forêt est vendue par le propriétaire, l'agglomération sera prioritaire dans l'achat de ce bois,
donc pour l'ouvrir au public.
Alors, si vous allez aujourd'hui à Saint-Léger-des-Bois, ni le bocage n'est pas protégé, il n'y a pas d'outil réglementaire pour ça, le sentier de randonnée n'est pas non plus aménagé et la forêt n'est pas non plus ouverte au public. Donc c'est 10 ans après. Ce projet dont je vous parle date de la fin des années 90. Donc il y a eu un échec finalement d'une politique paysagère pour plusieurs raisons et en particulier des conflits.
Alors des conflits d'une part sur le bocage, c'est-à-dire que le maire a proposé de protéger les haies au titre des espaces boisés classés.
Donc c'est une réglementation bien particulière qui s'applique très bien en ville pour protéger des boisements, mais qui, en tout cas pour les représentants de la profession agricole, ne s'applique pas sur des linéaires en campagne. Donc les espaces boisés classés, c'est un outil très très contraignant qui gèle complètement les boisements en l'état. Et en réunion publique, je me souviens très bien de voir les représentants de la Chambre d'agriculture et de la DDA et
les quelques agriculteurs restants sur Saint-Léger s'offusquer de cette hypothèse-là, sachant que les haies sont un outil de travail,
si on veut maintenir de l'agriculture sur Saint-Léger, il faut que les agriculteurs puissent en arracher quelques linéaires
si c'est nécessaire.
Donc il y a une opposition très forte contre cette idée d'utiliser les espaces boisés classés pour les haies. Donc au final, dans le poste aujourd'hui, si vous ouvrez le règlement, il y a simplement un plan qui est dessiné. C'est un maillage dit structurant. L'élu a fait travailler un bureau d'études pour recenser non pas toutes les haies de la commune, mais les haies structurantes, celles qui structurent le paysage. Et il est dit simplement, en guise de sensibilisation, dans le rapport de présentation, que si les agriculteurs sont amenés à détruire quelques linéaires de haies, ce serait
intéressant qu'ils fassent l'effort de replanter
dans la continuité du maillage structurant. Donc pas de contraintes réglementaires au final aujourd'hui, 10 ans après. Ce qui a fonctionné, c'est
à travers un zonage que j'ai pas le temps ici de préciser, qui est le zonage NDF, ce qui a fonctionné, c'est qu'on a interdit le développement de boisements productifs,
donc de peupliers dans la vallée. Donc ça a été complète. La menace du développement des peupliers
a été contrée.
Le sentier de randonnée ne s'est pas fait, car là aussi un conflit très fort a éclaté.
En fait, la ZAD dont je vous parlais n'a pas été tracée
évidemment strictement sur le massif boisé, puisque une ZAD consiste aussi à aménager, à prévoir l'accueil de ces futurs randonneurs
de la forêt. Donc la ZAD dépassait largement le boisement, et en réaction à ce projet donc, qui visait à établir aussi des parkings,
vous voyez bien, tout autour de la forêt, les riverains se sont mobilisés, se sont constitués en association, ont fait travailler un juriste qui a trouvé un vice de forme dans la procédure de ZAD de l'agglomération.
Donc le projet a été complètement annulé. La ZAD a été refaite. L'agglomération a refait une procédure en faisant attention du coup à la procédure. Donc aujourd'hui, statu quo, projet de ZAD, projet d'ouverture au public, mais toujours rien de fait. Par contre, si vous allez à Saint-Léger, vous tombez face à deux sculptures dans un espace public qui s'appelle la Coulée Verte. Alors, espace public de Saint-Léger, donc c'est le bourg est là. Et puis, vous avez des lotissements en fer à cheval, comme ça. Donc, la vallée de la Coudre qui passe comme ça. La forêt dont on parlait qui est là. Et puis, une perspective qui est dessinée comme ça. Donc là, on est dans cette perspective-là. Au fond, vous avez la forêt dont je vous parlais. Donc, l'idée pour les concepteurs de cet espace de lotissement et d'ouvrir une perspective vers cette forêt qui pour l'instant est inaccessible, on ne peut pas y pénétrer, elle est toujours privée, mais on se l'approprie par le regard, hein, à travers cette perspective, cette mise en valeur. Et puis dans cette coulée verte, dans cet espace public qui est là, on a disposé deux sculptures qui représentent le paysage identitaire, j'emploie les mots de l'élu, le paysage identitaire de Saint-Léger. Vous avez une représentation de la fée Viviane, une figure qui s'extrait d'un tronc d'arbre, donc la fée Viviane étant une figure de la mythologie forestière, donc une représentation symbolique de la forêt à laquelle on ne peut pas accéder. Donc à défaut, on a ce symbole-là. Et puis on a ici des trognes qui n'ont rien à faire ici, hein, qu'on est allé chercher dans les chemins creux du bocage et qu'on a rapporté. Donc symboliquement, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait un projet de paysage à l'échelle territoriale ici, avec tout un tas d'intentions. Et au final, on se retrouve avec un repli en termes d'échelle sur un espace qu'on maîtrise, qui est un espace public. Hein, à défaut d'avoir pu préserver le bocage ou d'avoir pu accéder à la forêt, ben, on utilise des symboles pour sensibiliser aussi la population à ce qui fait la qualité des paysages de Saint-Léger, en tout cas du point de vue des élus. Autre exemple de conflit, dans le parc naturel régional de Brière, donc, une charte paysagère a été élaborée il y a quelques années qui a déclenché donc un conflit avec les agriculteurs. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, entre guillemets? C'est le fait que les bâtiments d'élevage ont été désignés comme des verrues dans le paysage. L'intégration des bâtiments agricoles est un problème récurrent dans la zone bocagère. L'insertion paysagère ne fait pas l'objet d'obligations. Trop souvent, les plantations sont quasi absentes ou réalisées avec des essences ornementales qui tranchent avec le paysage rural et renforcent même souvent l'aspect de verrue paysagère des bâtiments. Donc il y a eu un conflit très important, très, très dur, contre une mobilisation des agriculteurs locaux, des agriculteurs du parc, contre une charte. Je suis allé rencontrer à l'époque le représentant des agriculteurs qui se mobilisait contre la charte du paysage, qui me présentait la charte comme une munition de plus pour détruire l'agriculture, et surtout qui dénonçait le fait que face à ce projet, ils avaient été mis devant les faits une fois la charte élaborée. Par ailleurs, la charte partait selon lui d'un postulat complètement nostalgique, qui est celui de la préservation du bocage. L'étude se base sur un postulat nostalgique, ce sont ces mots, alors que seules les évolutions techniques attirent les jeunes dans le métier. Sans le remembrement qui est dénoncé dans la charte, il n'y aurait plus d'agriculteurs en Brière aujourd'hui. Donc le métier est trop dur, mal payé, pas reconnu. Il avait deux fils qui ne veulent pas reprendre la suite, et il me disait les comprendre et même ne pas les encourager à s'engager dans l'agriculture. Quant à la qualité esthétique, donc, il est fait allusion ici. Il comprenait d'autant moins finalement les reproches exprimés dans la charte qu'il fait l'effort de tondre régulièrement ses abords de ferme, consacre chaque année, donc c'était en 99, donc c'était des francs, 1500 francs pour fleurir de géranium les pourtours de ses bâtiments d'élevage. Alors derrière ça, il y a aussi un discours très syndicaliste, c'était un représentant de la FNSEA qui s'exprimait, et qui en profite pour faire le lien entre la qualité des paysages, de ces paysages, et puis celle des exploitations de la Confédération paysanne. Les exploitations de la Conf sont plus sales que les nôtres. Les exploitations traditionnelles sont souvent mieux rangées. L'organisation est plus rationnelle. Nos poulets élevés en batterie sont plus sains. Donc il faisait aussi un lien, vous voyez, entre, je dirais, la qualité des paysages et puis la qualité des produits faits, mais bon, à l'inverse de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc c'était aussi intéressant à ce titre-là. Donc un groupe d'agriculteurs syndiqués a pris connaissance de l'étude sur la charte paysagère proposée par le parc de Brière. Donc voilà, on part du constat. Procès d'intention au remembrement, sans lequel le développement rural tout entier serait encore à l'âge de pierre. etc. On parle d'agriculture, de folklore, enfin tous les arguments dont je vous ai, parlé à l'instant. Nous refusons de devenir des jardiniers de l'espace rural au service des citoyens en quête de rêves. Je passe en milieu urbain, ou plutôt périurbain, pour vous parler maintenant d'un règlement de lotissement. Donc nous sommes à Avrier, dans la première couronne angevine, où un conflit a opposé finalement un propriétaire d'une parcelle de lotissement à la commune, dans un lotissement qui était soumis à une réglementation qui visait à ouvrir les paysages du lotissement, sachant que dans plein de lotissements à Avrier, les haies de thuya compartimentent beaucoup ces lotissements. Et donc l'idée était ici d'échapper finalement à un lotissement comme ça, très compartimenté, avec des haies à 2 mètres, et de permettre au contraire une ouverture du paysage. Alors lorsque le directeur des services techniques m'a fait visiter son lotissement et m'a expliqué la règle paysagère, ce règlement de lotissement permet de faire une clôture végétale à l'arrière et sur les côtés de ces maisons, mais pas devant. Tout est réglementé, donc essence, hauteur, largeur. Et par contre, devant, interdiction. Interdiction de planter quoi que ce soit, et la limite de propriété est juste marquée par une bordure en béton de quelques centimètres. Au-delà d'échapper à ce compartimentage dont je parlais, l'idée est de faire peser sur les propriétaires une certaine pression pour les inciter à bien entretenir leur parterre. La règle m'a vraiment été présentée comme ça, c'est-à-dire que en maintenant ouvert comme ça les façades de maison, les façades de parcelles, on incite les propriétaires à bien entretenir leur parterre. Et ça marche très bien dans le lotissement. Vous allez vous promener, il y a une espèce de concours de fleurissement automatique qui se met en place avec des parcelles extrêmement bien entretenues. Alors, face à ça, un propriétaire s'est un petit peu rebellé. Il a eu tort de se rebeller puisqu'il avait signé le règlement de lotissement, donc il devait forcément s'y accommoder. S'est rebellé parce qu'il avait des enfants en bas âge et il craignait pour leur sécurité. Et ce problème de sécurité était d'autant plus grave pour lui que cette ouverture sécurisait les automobilistes. C'est-à-dire que autant dans un lotissement compartimenté avec des haies à 2 mètres, vous faites attention. Vous voyez, il y a une fermeture visuelle. Voilà. Autant dans un lotissement à l'américaine, entre guillemets, un peu comme celui-là, il y a une espèce de confort de circulation, une ouverture, vous avez l'impression de tout maîtriser de ce que vous voyez. Et donc une circulation très, très rapide. En tout cas, le propriétaire en question m'expliquait la chose aussi comme ça. Et donc il a construit une balustrade, hein, comme on peut en voir, une balustrade en bois pour protéger ses enfants de la circulation automobile. Et un conflit, donc. Qui s'est réglé au tribunal administratif, a opposé ce propriétaire récalcitrant à la municipalité, laquelle a gagné, bien sûr, puisque le propriétaire avait signé. Deuxième élément de conflit, toujours à Avrier, et toujours dans ce lotissement-là, lié à l'entretien des végétaux, à l'entretien de ces grands arbres-là. Un des principes de conception du lotissement cherchait à protéger, en tout cas à préserver, les grands arbres, hein, les grands arbres issus du bocage originel dans ces parcelles-là. Et c'est vrai que ce qui fait la qualité aussi de ce paysage urbain-là, ce paysage de lotissement, c'est la présence de ces grands arbres. En 99, il y a eu la tempête, qui a beaucoup fragilisé ces vieux chênes en particulier. Et un des enjeux de la mairie était de savoir, mais voilà, maintenant qu'on a forcé finalement la protection de ces grands arbres-là, enfin la présence en tout cas dans les parcelles de ces grands arbres-là, si jamais une branche se décroche et voilà, et s'il y a un dommage, qu'il soit corporel ou matériel, qui est responsable ? Donc là, il y avait un gros doute de la part de l'équipe technique. Et ils ont essayé de faire quelque chose. Le maire a émis un arrêté municipal permettant au service des espaces verts de la commune d'aller entretenir dans les parcelles privées des habitants ces vieux arbres. Et là aussi, il y a eu un conflit, mais en tout cas une controverse qui s'est déclenchée. Et la municipalité a fait machine arrière, sachant que la préfecture a dénoncé cet acte municipal en disant qu'il était illégal. Donc le maire n'avait pas la possibilité, avec ses services municipaux, d'aller entretenir ces arbres dans les parcelles privées. Toujours à Avrier, lorsque vous traversez aujourd'hui l'agglomération angevine, je ne sais pas si vous connaissez, lorsque vous partez de Nantes et vous allez en région parisienne ou l'inverse, jusqu'à il y a quelques années, la seule ville que vous traversiez, c'était Angers. Depuis 4 ans, vous évitez Angers, mais vous passez dans une commune périphérique qui s'appelle Avrier, donc où on était. Un contournement autoroutier a été réalisé pour éviter donc le passage au pied du château d'Angers, pour éviter le passage intra-urbain à Angers. Donc l'autoroute est passée dans la commune périphérique d'Avrier. Alors pendant longtemps, une association s'est constituée, l'association Cactus, pour lutter contre le projet d'autoroute. Ils se sont très vite rendus compte qu'ils ne pourraient pas lutter face à ce projet d'infrastructure. Et ils se sont repliés d'une certaine manière pour défendre un passage souterrain, un passage couvert. Et aujourd'hui, lorsque vous passez sur ce contournement autoroutier, vous passez en effet en couverture sur 1,5 km qui correspond au passage intra-urbain de la commune d'Avrier. Donc cette association Cactus qui s'est mobilisée, qui a fait un travail très professionnel, qui a investi un rond-point à Avrier pour en faire sa base, qui a fait intervenir des grands urbanistes, des grands architectes, qui s'est muni de juristes d'envergure nationale pour dénoncer et pour proposer aussi des solutions d'aménagement. C'est grâce à cette association qu'aujourd'hui, vous passez en tunnel à Avrier. Dans le projet initial, il n'y avait pas du tout de couverture prévue par les services de l'État. Et c'est grâce à cette mobilisation citoyenne que la couverture a été actée. Alors moi, je me suis intéressé à cette histoire-là parce qu'il était question de paysage, vous vous en doutez bien. Les opposants à l'infrastructure argumentaient du paysage pour dire « Attention, cette infrastructure longe une vallée qui est la vallée du Brionneau avec une certaine qualité paysagère, environnementale. » Donc l'argument du paysage était mobilisé pour lutter contre l'infrastructure. Et là où je me suis intéressé au projet, c'est qu'à l'inverse, bien sûr, les services de l'État utilisaient le paysage pour faire passer l'autoroute, d'une certaine manière. Si bien que dans la presse, il y a eu pendant des semaines un jeu de ping-pong entre l'association Cactus et puis les services de l'État à propos du paysage, le paysage étant dans un cas l'argument contre et dans l'autre cas l'argument pour l'infrastructure. Alors comment le paysage peut être l'argument pour l'infrastructure? Il l'a été au point où les services de l'État, dans le livre blanc, c'est-à-dire le livre qui consigne tous les principes d'aménagement de l'infrastructure rédigé par les services de l'État, le livre blanc parlait même d'autoroute paysagère. Il y a un chapitre entier qui est consacré à la mise en valeur des paysages grâce à l'autoroute. Et vous avez ici les intitulés de ce chapitre qui correspondent à des sections de l'autoroute traversant la ville d'Avrier avec une espèce de rhétorique poético-lyrique valorisant les paysages perçus depuis l'autoroute. L'autoroute étant une espèce de belvédère, finalement, donnant à voir la campagne environnante, donnant à voir l'île Saint-Aubin, un cœur amphibie, etc. Donc, une espèce de lyrisme. Voilà. Donc, évidemment, la presse a beaucoup ironisé sur cette autoroute paysagère. Alors, maintenant, on va prendre un peu de champ par rapport à tous ces exemples. Ce qui est intéressant dans la façon dont les conflits mobilisent le paysage, l'argument du paysage, c'est que finalement, on voit s'opposer, bien sûr, des usages différents, mais aussi des représentations du paysage. Donc ça, c'est le premier point, des usages et des représentations. Le deuxième point, et qui ressort très bien, par exemple, de mon histoire du lotissement à Avrier, c'est la tension publique-privée, c'est-à-dire la façon dont la gestion du paysage aujourd'hui cherche à intervenir dans la parcelle privée. D'accord. Alors, par le paysage, justement, on peut mettre d'une certaine manière une pression, sans agir matériellement sur la parcelle, mais simplement en donnant à voir la parcelle. On peut exercer sur le propriétaire une certaine pression pour qu'il aménage la parcelle de façon satisfaisante. Alors, finalement, les conflits révèlent beaucoup de choses et, à ce titre, sont très instructifs. Les conflits révèlent des rapports de force dans l'espace, donc des logiques d'appropriation. On voit bien des acteurs s'opposer dans la maîtrise de l'espace à travers ces conflits de paysage. Donc c'est extrêmement, extrêmement clair. On voit aussi à travers ces quatre conflits des relations, la nature en tout cas, des relations qui lient donc les populations à l'espace, des phénomènes d'appartenance. On voit à travers ces conflits, à travers leur analyse, les compétences, les capacités de mobilisation des habitants. On voit à travers ces conflits des processus de montée en généralité, c'est-à-dire que le paysage est abordé comme un patrimoine commun,
parfois pour défendre des biens privés, c'est l'histoire de la levée. Donc des processus de montée en généralité qui mobilisent les valeurs de patrimoine, de biens publics, de paysage, de développement durable, enfin toutes ces valeurs du bien public susceptibles de masquer, en tout cas, ou de défendre des intérêts particuliers. À travers ces conflits, on voit aussi bien sûr des représentations, des usages et des modèles d'aménagement très, très différents. Alors tout ça pour vous dire que finalement, les conflits, en tout cas dans la posture du chercheur, celle que j'adopte, qui est très confortable, hein, je vous l'accorde, ces conflits sont très positifs, donc ils renseignent beaucoup sur les territoires, sur leur dynamique, sur leurs composantes sociales, etc., etc. Les conflits sont positifs dans les dynamiques sociales, et lorsqu'on lit des choses sur les conflits, l'ouvrage que je vous ai indiqué au tout début, c'est très frappant, c'est-à-dire que les conflits ne sont pas des parasites, ne parasitent pas l'action, mais peuvent être des leviers d'action très importants. Lorsqu'une association d'habitants, par exemple, ou une association de riverains, arrive à passer du contre une infrastructure au pour quelque chose. Et on voit beaucoup de passages comme ça, de positions contre à des positions pour. J'entends par là que les conflits peuvent déclencher, par exemple, des dynamiques intercommunales, peuvent déclencher des initiatives de développement local. Dans un premier temps, les populations ou les associations se mobilisent contre un projet, et finalement, ça crée de la connaissance, de l'interconnaissance entre les gens, ça crée de la cohérence, de la cohésion dans un tissu social. Par exemple, dans une commune périurbaine qui jusqu'à présent opposait des natifs, entre guillemets, et des néo-ruraux qui viennent s'installer, un conflit peut amener du ciment, d'une certaine manière, du ciment social, de la cohésion, se transformer progressivement en dynamique positive sur un territoire. Donc c'est ça que les recherches sur les conflits aujourd'hui mettent bien en valeur, ce passage du pour au contre, du contre au pour. Ouais. Ce dont je vous parle là n'est pas propre à la question du paysage dans les conflits, mais par contre, le statut du paysage dans le conflit, si on s'intéresse plus précisément à ça, ben, il est divers, le statut du paysage. C'est-à-dire que le paysage peut être l'objet même du conflit. Le paysage peut être simplement un élément de contexte, hein, qu'on va mobiliser dans un conflit, qu'on va instrumentaliser. Dans ce cas-là, le paysage sera un argument parmi d'autres. Et là, j'ai en tête un conflit qui a défrayé la chronique des chercheurs dans les années 90-2000. C'est celui sur les basses-vallées angevines, dont David Montembeau, qui est intervenu l'an dernier, vous a peut-être parlé, je ne sais pas. Donc un conflit sur le développement des peupliers, qui a été analysé par la géographe et agronome Sophie Le Floch, pour montrer que la question du paysage là-dedans était complètement annexe, même si elle semblait très importante. En réalité, évidemment, le conflit a tourné autour d'arguments beaucoup plus solides que celui du paysage, parce que par le paysage, on peut dénoncer les peupliers comme vanter leur présence. Donc l'argument du paysage peut être aussi très fragile par rapport à d'autres arguments beaucoup plus solides, comme des arguments écologiques, par exemple. On peut plus facilement lutter, peut-être, à travers des arguments écologiques que paysagers. Des arguments économiques aussi, pourquoi pas, évidemment. Le paysage peut aussi être dans le conflit, non pas une cause ou un élément de contexte, mais une résolution, une modalité de résolution du conflit. J'aurais voulu vous parler de la façon dont la recherche aujourd'hui envisage le paysage comme une médiation possible. Alors, à travers trois, finalement, dimensions, la médiation paysagère comme une action de résolution de conflit, justement, donc une réflexion sur le paysage pour dénouer un conflit. Donc c'est la définition que donne Pierre Donadieu dans le dictionnaire du paysage à médiation paysagère. Il l'aborde uniquement en termes d'entremise entre deux ou plusieurs personnes. Le médiateur, la médiation paysagère consiste à régler un conflit. Mais lorsque vous lisez d'autres choses, par exemple la plaquette Apport que je vous invite à lire, elle est téléchargeable sur Internet, consacrée à la médiation paysagère, elle aborde la médiation comme d'abord une interprétation du paysage, c'est-à-dire que le paysage a l'avantage de porter en lui les traces matérielles de toutes les activités présentes. Et puisque le paysage est un livre ouvert sur l'espace, d'une certaine manière, c'est quelque chose de très transversal, c'est quelque chose donc qui permet de mettre autour de la table aussi bien la DDE que les gens qui gèrent, les naturalistes, la dimension transversale du paysage, sa capacité à refléter un territoire, lui donne cette valeur, cette vertu participative et donc potentiellement médiatrice.
Aujourd'hui, toujours très rapidement, vous avez tout un tas de professionnels qui se spécialisent sur la médiation par le paysage. Je vous invite par exemple à aller chercher sur Internet des informations sur le collectif Alpage. Alpage voulant dire Atelier de paysage en partage. Ce sont des jeunes paysagistes de Bordeaux qui expérimentent des démarches innovantes en matière de projets de paysage et participantes. Des paysagistes, mais vous avez aussi tout un tas d'autres acteurs de l'urbanisme, de l'architecture qui essaient aussi de s'emparer finalement de cette notion de paysage comme une solution de médiation et d'animation dans les territoires. Alors évidemment, la question des processus participatifs induit en tout un tas de questions qu'on travaille à travers le programme de recherche paysage et participation auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Donc c'est encore très expérimental et on a encore beaucoup de mal à trouver des élus pour nous appuyer dans ces démarches expérimentales, dans la mesure où l'élu parfois se sent concurrencé face à ces démarches participatives. Il perd d'une certaine manière sa légitimité. Donc, enfin, c'est la question de la démocratie participative par rapport à la démocratie représentative. D'une certaine manière, les paysagistes eux-mêmes, ou en tout cas les experts, se sentent aussi, à travers ces démarches-là, fragilisés, dans la mesure où c'est une remise en cause aussi de leur expertise, ou en tout cas c'est une autre expertise qu'on attend d'eux. Les questions qui se posent, c'est qui faire participer? On sait bien que dans les instances officielles, entre guillemets, de la participation aujourd'hui, comme par exemple les comités de quartier, on a toujours les mêmes types de personnes qui sont présents. On a des retraités, on a des profs qui ont du temps, évidemment, voilà, etc. Mais on n'a pas une représentativité intéressante. Donc, qui faire participer? Quel degré de participation rechercher? Est-ce qu'on cherche juste à sensibiliser? Est-ce qu'on cherche juste à informer? Est-ce qu'on cherche à aller au-delà, c'est-à-dire co-construire des projets avec les habitants? Donc, le collectif Alpage dont je vous ai parlé va au-delà, hein, et fait dessiner les gens, les emmène sur le terrain, expérimente plein de choses avec eux, un stade très avancé de la participation. Et puis sur quoi faire porter la participation, c'est une autre question. Est-ce qu'on fait porter la participation sur la définition du programme, c'est-à-dire sur les objectifs du projet, sur le diagnostic qui en amont va permettre d'orienter le projet, mais sans chercher à orienter enfin, les objectifs initiales, ou sur le projet lui-même, donc à quelle phase, sur quelle phase on fait porter la participation. Et puis enfin, quels outils utiliser pour mettre en œuvre la participation par le paysage? Alors, participation par le paysage, ça sous-entend que on peut utiliser tout un tas de modes de représentation différents, et les paysagistes utilisent des outils très intéressants, la photographie, les blocs diagrammes, le dessin, la carte, voilà, on peut imaginer les maquettes, on peut imaginer beaucoup d'outils de représentation qui peuvent permettre cette participation, et cette recherche et les expérimentations en cours testent finalement la complémentarité de tous ces outils de représentation dans ces démarches-là. Excusez-moi, j'ai été un peu long et je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc, mais peut-être pas.